Vous savez que j'ai l'habitude, depuis ma plus tendre enfance, de jamais répondre à ce qu'on me demande.
Cette semaine, nouvelle visite à Salvador Dali. En fait, il me restait largement de quoi aborder d'autres aspects de cet incomparable personnage. Bonjour et bienvenue dans cette 20e visite de la saison 7 du Panthéon décousu sur Radio Alpa 106.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Cette semaine, il sera notamment question de rhinocéros, d'ADN, de sucettes, de monarchie cosmique et de choux-fleurs. Tout ça dans le désordre, voire une anarchie certaine, avec des liasses de billets tout autour. En 2020, la chaîne YouTube Décryptage Excentrique avait dressé un bon portrait d'intro.
Beaucoup vont jusqu'à dire que la plus grande œuvre d'art de Dali, c'est Dali, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Au-delà de l'œuvre d'art qui est censée être unique et plus ou moins pérenne, du moins dans les esprits, Salvador Dali est, pour moi, plus proche de la marque. C'est-à-dire une entité qui va exhiber une pléiade d'œuvres, de produits et tout autre type de contenu varié, parfois lié, parfois contradictoire, d'une période à une autre, qui va accepter de collaborer de temps en temps avec d'autres marques pour accroître sa visibilité, sans cesser de clamer qu'au fond, elle reste meilleure que les autres. Le tout dans un but mercantile, évidemment. Dans son journal d'un génie, Salvador Dali déclare que la tenue est essentielle pour vaincre. Très rares sont les occasions où, dans ma vie, je me suis habillée en civil. Je suis toujours habillée en uniforme de Dali.
Uniforme et symbolique, lui qui avait effrontément pris la cause de Franco. Costume aurait fait trop clown, sans doute. Sur ce, Dali...
Imagine avec Christian Dior le costume à tiroir de l'année 45, développe des maillots de bain pour femmes qui compriment la poitrine, un smoking aphrodisiaque au peppermint frappé, des cravates, des robes, des lunettes, du maquillage, du parfum, des faux ongles, du mobilier. C'est aussi lui qui a dessiné le logo original des Chupa Chups. Trouvant qu'en positionnant le logo sur le dessus de la sucette, l'impact sur le consommateur serait plus fort. Si le grand public pouvait apprécier les extravagances du personnage, ses apparitions médiatiques exaspéraient les critiques et historiens de l'art de son époque. Ses collaborations avec les mondes de la haute couture, du design ou encore du cinéma répulsaient beaucoup de ses collègues surréalistes qui considéraient que la pensée créative ne pouvait en aucun cas être guidée par l'argent. Bon, tous les surréalistes ne pensaient pas ça, hein, mais quand même beaucoup.
58 à Radio-Canada.
En avez-vous beaucoup d'argent ?
Le plus que je peux en attraper, c'est une des raisons pour lesquelles je viens périodiquement en Amérique, parce que c'est là où cette chose se produit le plus, avec le plus de facilité. Mais paradoxalement aussi, je ne sais jamais vraiment si j'en ai beaucoup ou peu, parce qu'une fois je l'ai, je me désintéresse totalement. L'argent pour moi c'est une chose symbolique, c'est une des raisons dans lesquelles je crois que je suis très puissant, et que je peux faire exactement ce que je veux, dire ce que je veux. Et grâce à l'argent, je n'ai jamais eu besoin de m'engager, comme ils font beaucoup de poètes et artistes qui s'engagent dans des partis politiques.
Ou des milliardaires qui font dans la presse d'opinion et les lancements de fusées qui foirent.
Face à toute cette opulence et l'avarice grandissante de Dali, André Breton lui inventa le surnom Davida Dollars, parfait anagramme de Salvador Dali.
Ce que je n'ai pas fait, c'est un chef-d'œuvre pictural. Mais je vais essayer de ne jamais le faire et de le saboter chaque année, parce que évidemment le jour que Dali peindrait un tableau bien peint, comme c'est le cas par exemple avec Velázquez, avec Las Meninas, ou Vermeer avec sa vie de Delphes, alors le jour suivant je mourrai. Et comme que je préfère avant tout continuer à vivre, même à travers les derniers procédés d'hivernation, ne serait-ce que prolongés de quelques semaines, alors je vais continuer à saboter systématiquement tous mes possibles chefs-d'œuvre, parce que je préfère continuer à vivre que de faire un chef-d'œuvre immortel.
Interviewé à Nice début 70, là je trace une passerelle avec Gainsbourg. Quitte à ne pas se reconnaître comme un génie à l'égal de ses maîtres classiques, Velázquez, Chopin, autant être un personnage génial, un artiste dans son temps.
Pour vous, qu'est-ce que l'Espagne ?
L'Espagne représente le plus haut degré de spiritualité dans le monde aujourd'hui et dans le passé, le plus grand impérialisme pour le mysticisme.
Croyez-vous que votre peinture peut aider au retour de la monarchie en Espagne ?
Ma peinture aide à la retour de la monarchie cosmique, puisqu'il est le coefficient de cette glue cosmique que le docteur Heisenberg a proclamé à Berlin.
Le physicien allemand Werner Heisenberg, 1901-1976, formalisa la théorie de la physique quantique. Dali crée alors de plus en plus en combinant approches plus ou moins scientifiques et laisser aller psychanalytiques. époque.
L'historienne des arts Catherine Klingsor-Leroy écrit que guidée par son esprit anarchique dissimulé sous un vernis de snobisme, Dali ne cherchait pas réellement à glorifier le régime nazi ou franquiste, mais plutôt à mettre en avant une certaine fascination érotico-esthétique qui émanait selon lui de la présence d'Hitler. Lui-même affirmera qu'il était « guillemet » fasciné par le dos tendre et dodu d'Hitler, toujours si sanglé dans son uniforme. Bon, évidemment, ça ne fait pas vraiment sensation du côté des surréalistes qui, justement à cette époque, hésitent à s'engager du côté des communistes. André Breton finira en 1934 par convoquer Salvador Dali et organiser son procès. Appuyé par d'autres surréalistes, Breton commence sa plaidoirie en accusant Salvador de glorifier à travers sa personne et ses travaux le capitalisme et le fascisme. On raconte que Dali, habillé en malade avec un chandail et un thermomètre dans la bouche, aurait construit sa défense sur un striptease en affirmant que tout ce qu'il faisait c'était retranscrire sans filtre tout ce qu'il voyait en rêve et que pour cette raison, lui et Breton risqueraient prochainement de devenir le sujet d'une représentation homosexuelle dalinienne. Bon bah... À l'issue de cette réunion, Dali est expulsé des surréalistes.
Au début, j'ai accordé très peu, parce que je commence toujours à dire des choses sans y croire trop. Ça m'est arrivé au début de mon adolescence, où je disais que j'étais un génie sans y croire du tout, mais tout en jouant à être un génie, je l'ai devenu.
Vous ne vous considérez plus un surréaliste ?
Au contraire, je me considère tout. Je suis totalitaire, impérialiste, et dans mon œuvre, il y a beaucoup plus maintenant que le surréalisme, puisque... J'ai devenu un des plus importants définiteurs de la monarchie cosmique.
Et la religion semble vous intéresser.
Plus que la religion, la métaphysique.
Mais la religion...
La religion, naturellement.
Mm-hmm. Et la métaphysique, plus que la religion.
Plus que la religion, mm-hmm. Parce qu'il peut former, il peut être partie constituante précisément de cette glue cosmique que je recherche.
Bon, je crois que le passage par un psy s'impose et ça ne sera pas du luxe.
Le 19 juillet 1938, à Londres, Salvador Dali réalise un de ses rêves en rencontrant en privé une de ses très rares idoles encore vivantes, Sigmund Freud. La rencontre se fait par l'intermédiaire d'un de leurs amis communs, l'écrivain Stefan Zweig. Celui-ci organise l'entrevue en écrivant d'abord une lettre à son compatriote. Vous savez que j'ai toujours scrupuleusement évité d'introduire des gens chez vous, mais pour demain il s'agit véritablement d'une exception importante. Selon moi, Salvador Dali, pour bizarre que certaines de ses œuvres puissent être, est le seul génie dans la peinture de notre époque et le seul qui lui survivra. Freud accepte le rendez-vous et Dali lui montre à l'occasion sa métamorphose de Narcisse, en prenant soin de lui expliquer sa fameuse méthode de la paranoïa critique.
C'est donc dire que l'obsession et les complexes ont une part importante dans votre œuvre peinte.
Plutôt les obsessions de type paranoïaque, puisqu'ils forment part de la structure de ma méthode personnelle, qui c'est une méthode qui s'appelle la méthode paranoïaque critique. Mm-hmm. Il y a peut-être déjà 35 ans que je l'ai inventé.
Êtes-vous vous-même paranoïaque ?
La structure de mon esprit est paranoïaque, mais je suis, comme je dis très souvent, la différence entre un fou et Dali, c'est que Dali n'est pas fou. Mm-hmm. Mais cette méthode, pour revenir à cette méthode paranoïaque critique, il y a déjà 35 ans que je l'ai inventé. Ça a un succès de plus en plus grand. Et en fin de compte, je me rends compte que je ne l'ai jamais compris. Ce qui prouve la validité en profondeur d'une telle démarche.
Freud l'écoute attentivement. Le surlendemain, il répond à son ami Stefan Zweig. « Cher monsieur, il faut réellement que je vous remercie. Car jusqu'alors, semble-t-il, j'étais tenté de tenir les surréalistes pour des fous intégraux. Le jeune espagnol avec ses candides yeux de fanatique et son indéniable maîtrise technique m'a incité à reconsidérer mon opinion. Il serait en effet très intéressant d'étudier analytiquement la genèse d'un tableau. »
Poi chica picca pagliarica cama torta i vacarica la tesis polch six pix pagliarix.
Chaque fois qu'on fait une interview avec vous, que j'ai l'honneur que vous m'interviewez, je dis un mot que personne ne comprend.
Personne, oui.
Alors pour les moustaches, j'ai commencé à raconter que c'était des antennes, que c'était très important, que mes idées passaient à travers mes moustaches. Et soudainement, j'ai trouvé des textes du Moyen-Âge qui prouvent que réellement les moustaches et aussi les sourcils très touffus sont des éléments conducteurs qui vont directement au cerveau. Et Platon avait des très longs, Leonardo da Vinci aussi, et un Italien d'origine catalan, La Porta, il a écrit La magie naturelle dans laquelle les moustaches de l'homme jouent un rôle presque plus important que les antennes chez les insectes.
Est-ce que vous considérez qu'au sein de la création, il y a des animaux particulièrement importants ?
Non, pas des animaux, mais il y a une cellule qui est géante,
c'est la DNA, c'est-à-dire qu'il se trouve dans la véritable substance divine des protéines, la désoxyribonucléique acide.
L'ADN, en français.
En tant qu'animal, évidemment, l'unique animal que je respecte, tout le monde le sait, c'est le rhinocéros. À cause des granulations distribuées d'une façon logarithmique sur la rugosité chair de poule de son corps armé, et en même temps à cause de la forme plus divine encore de la corne divine qu'il porte sur le nez et qui est l'unique exemple qui présente la nature dans le monde animal d'une vraie section de courbe logarithmique.
Dans ce désastre chaotique, dans ce côté anarchisant de la peinture abstraite d'aujourd'hui, il y a déjà les germes intuitifs, les symptômes d'une nouvelle conception énergétique de la matière.
Est-ce que ces symptômes sont dans vos œuvres aussi?
Dans mes œuvres, ils sont plus que des symptômes, ils sont presque des accomplissements.
Presque. Pas encore des pas accomplissements.
Encore. Bien. Eh bien, nous savons tout. Ah, pourquoi ceci? Qu'est-ce que c'est?
Ça, c'est une des bombes qui a servi plus ou moins à la confection de cet ouvrage.
Oui.
Parce que mon idée originaire, c'était d'obtenir 6 gravures simultanées par l'explosion d'une seule bombe.
Et ça, c'est la bombe, enfin, une bombe semblable à celle qui a explosé.
Oui, il y a plusieurs qui ont explosé, mais toutes, ils ont échoué à peu près. Et ce qui a été un grand bonheur que Dieu m'a procuré, parce que alors j'ai compris que l'apocalypse n'était pas du tout explosif, mais il devait être obtenu par la compression.
Bon, eh bien écoutez, avant de terminer, et afin de vous connaître mieux, je voudrais que vous puissiez peut-être donner votre canne à quelqu'un, ou peut-être à moi, et je voudrais vous figer en l'air pour savoir, et que tous les téléspectateurs puissent connaître, votre caractère profond.
Aujourd'hui, la matière est en train de s'échapper à chaque instant de la main des savants, et qu'on se trouve que la matière n'est que de l'énergie et que tout ce qu'on croyait matériel est en train de se spiritualiser.
C'est autour de ça que tourne votre peinture nucléaire, j'imagine.
Exactement. La mystique nucléaire,
mystique
je crois
nucléaire.
Que c'est une prophétie de ce nouveau état d'esprit mystique que fatalement sera provoqué collectivement le jour que les gens aient conscience de la transformation sensationnelle de nouveaux idées de la discontinuité de la matière.
Alors, j'asperge de la neige, de Noël, la première de Noël, le White Christmas, comme on dit en Amérique, le Christmas Spirit, et je profite de l'occasion pour vous asperger en même temps que vous êtes en paillasse avec les autres.
Qu'est-ce que c'est que la vérité?
La vérité, c'est un ouvrage qui consiste exactement de 22 volumes et qui est écrit par le père jésuite Malebranche.
Alors, allez vous laver le cul tout de suite, parce qu'il paraît que c'est une mal affaire.
Allez au... C'est dommage, parce que c'était la farine. C'est fini. C'est fini.
J'aime aucune forme mécanique.
Vous n'aimez aucune forme mécanique.
Parce que pour moi, toutes les formes doivent être molles et poilues. C'est pour ça que j'ai déclaré à Le Corbusier, la première fois que je l'ai vu dans mon extrême jeunesse, c'est que l'architecture de l'avenir serait complètement molle et poilue.
Ça pose un problème de matériaux?
Non, parce que le fait que ce soit mou, ça ne veut pas dire que ce soit réellement mou, ça veut dire que ça a des formes qui imitent le mou au lieu d'imiter la rigidité de l'architecture fonctionnelle d'aujourd'hui, qu'à mon point de vue, c'est de l'architecture pour des masochistes. C'est de la pure architecture d'autopunition. Et l'architecture doit être faite avant tout pour le plaisir catholique, que d'après moi c'est l'unique plaisir qui existe. Et le grand prophète de ce côté visqueux et super gélatineux de la prochaine architecture, c'était Gaudi, qui est l'architecte catalan le plus génial de tous ceux qui ont jamais existé depuis le Parthénon.
Cette statue qui se trouve près de Salvador Dali est un moulage d'après nature de Jane Birkin.
moulage tout sauf mou et poilu. À Nice, en 70, il annonçait vouloir hologrammer Dieu, et pas qu'un peu, et aux States. La même année ou presque, Johnny prophétisait que Dieu est un hippie, alors...
Maître, vous partez aux États-Unis faire une série de conférences, principalement sur la télévision liquide.
Oui, mais j'oublie toujours le... Hier, j'ai parlé de liquide, je ne peux jamais répéter les mêmes choses, puisque mon activité est, comme vous savez, polyphacétique, et je crois que c'est plus important. Je vais réaliser un hologramme, un portrait hologrammatique de Dieu. Et je l'ai essayé en Europe, mais comme vous savez, le laser, c'est-à-dire la matière, la lumière et matière cohérente, permet uniquement de réaliser de tout petits hologrammes, pas plus grands que ça. Mmh. Et moi, je voudrais arriver à en réaliser un qui aurait la dimension de un mètre et quelques, que d'après mes recherches, est la mesure légitime pour un hologramme de Dieu. Alors cet hologramme est constitué par des objets et même des éléments naturels comme le Nautilus, que d'après moi, sont des attributs les plus proches de la divinité qu'on peut trouver sous terre et qui sont aussi légitimes que les images que justement Michel-Ange, le bateau que je vais prendre, avait fait de Dieu le Père, et que d'après moi c'est des images enfantines, puisqu'il a fait des représentations de Dieu qui sont un peu comme Jaurès, une espèce de radical socialiste vénérable, mais auquel la jeunesse de nos temps ne peut plus croire, parce que c'est vraiment, comme on disait, des images d'épinal de Dieu. Tandis que moi je vais offrir à la jeunesse hippie et aux existentialistes chrétiens, c'est-à-dire à tous les gens vivants d'aujourd'hui, une représentation de Dieu avec laquelle ils peuvent se réconcilier. Vous avez vu que déjà dans Time Magazine, c'est le Time Magazine, on commence à dire que peut-être Dieu n'est pas aussi mort qu'on l'avait cru à l'époque de Nietzsche, puisque Nietzsche avait dit que Dieu était mort. Moi, quand j'ai su cette nouvelle étant petit, j'ai dit s'il est mort, c'est qu'il a été vivant quelque chose. Et maintenant, toute la jeunesse actuelle, après les drogues et la promiscuité, est dans un état d'esprit pré-mystique. Et je vais être le premier de canaliser cette jeunesse pour refaire la route vers Santiago de Compostelle, qui serait une des premières grands événements de la imminente monarchie en Espagne, avec notre prochain roi, Juan Carlos de Bourbon et Bourbon.
Lors de la première visite, je vous avais traîné jusqu'au Meurice, ce palace parisien. Bon, imaginez-vous en 75, dans le salon de sa suite, vu sur les Tuileries, à votre gauche une Harley Davidson, derrière Dali, une commode Louis XV.
Est-ce que vous avez envie de faire de la politique ?
Politop, 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 politop. Ça, c'est le mot de l'histoire, de toute l'histoire qui va suivre après que j'ai prononcé ce nom. Et c'est le polytope, c'est des polyèdres. Il y en avait, Platon il avait inventé 5 de réguliers, mais dans la 4e dimension, il y en a un de plus. Donc il y a 5 polytopes. Ce qui veut dire que je m'intéresse à l'histoire d'une façon primordiale et pas du tout à la politique. Je crois que je suis l'unique peintre au monde que jamais il n'a accepté de participer à aucun parti politique quel qu'il soit, puisque la politique, d'après moi, c'est l'anecdote misérable de l'histoire, et moi je n'aime que l'histoire.
Certains objets insolites vous ont-ils déjà inspiré en tant que peintre?
Toujours, puisque je suis fétichiste. Mmh. Enfin, premièrement, je suis exhibitionniste. Mais secondement, le trait le plus marquant de ma vie psychopathologique, c'est le fétichisme. Et dans ma première enfance, j'étais hanté par des objets très caractéristiques, uh-huh. comme les montres molles, qui étaient déjà une prophétie de la nouvelle conception du flexible, du uh-huh. temps et de l'espace. Uh-huh. Et la dernière grande obsession, la plus glorieuse de toutes, la cosmogonie dalinienne, c'est la chou-fleur et surtout la corne de rhinocéros. Puisque dans les deux se trouve le secret des courbes logarithmiques qui sont les vraies courbes de la résurrection.
En avril 1962, Dali est invité avec Gainsbourg, je crois, à inaugurer des immeubles dans la proche banlieue parisienne. Dommage, on n'a pas de trace de cette rencontre, mais...
Maître, vous avez pendant longtemps avancé que le chou-fleur était, je crois, le légume le plus riche, le plus cosmique.
Le cosmique.
Est-ce que vous ne croyez pas ?
Enfin, le soleil de Russie aussi, enfin, c'est le tournesol que Leonardo da Vinci avait déjà étudié. Et après la chou-fleur, parce que chaque petite granulation de la chou-fleur contient à lui-même de nouveau une espèce de galaxie de petits points.
Vous ne pensez pas que votre pensée, votre philosophie actuellement est inspirée, très influencée, disons, par le liquide, par tout ce qui est l'eau. Vous avez, je crois, les montres liquides.
Il y a les deux choses, le liquide et la motocyclette.
Oui.
C'est pour ça que maintenant je prépare un monument constitué par 45 motocyclettes qui vont twister continuellement avec un bruit extraordinaire au milieu d'un élément liquide et super visqueux.
Est-ce que vous pourriez, pour terminer, signer votre signature ?
Avec plaisir.
Merci.
Quelle est la chose que vous détestez le plus au monde, monsieur Dali ?
La simplicité.
On vous a posé des questions, mais ce n'était pas forcément celles que vous aviez envie d'entendre.
Ah non, moi, ce que j'avais envie d'entendre, c'est biologiquement... tous les problèmes de l'immortalité qui se trouvent autour du trou du cul. Et personne n'a parlé de ça, et ça c'est très important.
Et nous voici rendus à la fin de cette 20e visite de la saison 7 du Panthéon Décousu sur Radio Alpa. Diffusion les samedis et lundis midi et le jeudi à 17h30. Réécoute libre sur le site radioalpa.com et toutes les plateformes de réécoute, et ce, dès que le podcast sera en ligne. Mais ne nous quittons pas sans musique et sans l'hommage que rendit le groupe espagnol Mecano à Dali, toute fin des années 80, apogée de la Mobida, ici en novembre 90 à la télé française. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa, et voyez qu'on peut avantageusement se passer de drogue, de toute façon c'est mauvais pour la santé.
Dali se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos. Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta. Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta. Es un genio salvador, Dalí. Bigote rojo coco, ¿de dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? Deslumbrada, ¿de dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el hada? En tu cabeza se comprime la belleza como si fuese una olla express. Y es el vapor que va saliendo por la pez. Mágica luz en cada que es. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel. Y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Si te reencarnas en carne, ilusionista y trazo impresionante. Delirio colorista, colirio y oculista, de ojos delirantes. En tu paleta mezclas místicos ascetas con bayonetas y con tetas. Y en tu cerebro gala Dios y las pesetas, buen catalán anacoreta. Si te reencarnas en cosa, hazlo en la en pibe. Y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel.
Écoutez, vraiment, après ça, on ne peut pas faire mieux.
Mais après, vous irez dormir.
Enfin, embrassez-moi la main, puisque je voulais embrasser à vous la dernière fois. Et qu'on soit tous quittes.